OK, ça fait que si vous voulez, ouais, vous levez, on va lire la parole de Dieu, le chapitre 21 de Genèse. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit. Il fut sevré, et Abraham fut un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau, il donna à Agar, la donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? » Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit une outre d'eau. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné des Picols, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes le même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. » Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Si vous voulez vous asseoir. Alors, on va demander au Seigneur de bénir cette étude. Seigneur, nous venons à tes pieds, nous sommes tes enfants, nous avons soif d'apprendre aujourd'hui de ta parole, des principes, des choses qu'on se doit de mettre en application dans notre vie. Car bien entendu, nous sommes responsables aussi de ce que nous recevons. Nous devons de recevoir, de méditer et surtout d'obéir et d'appliquer dans nos vies ce que tu nous enseignes. Alors Seigneur, que ton esprit nous guide, nous éclaire, nous illumine ce matin. et nous donne le vouloir et le faire pour mettre en application, obéir à ce que tu nous apprends, les principes que tu nous apprends ce matin, les principales leçons ou applications que tu veux nous enseigner ce matin. Sois avec nous, éclaire-nous, bénis-nous. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va réviser rapidement. On était rendu, on a fait les deux premiers points. On va les réviser rapidement de manière à ce qu'on voit l'ensemble des leçons qui sont enseignées dans le chapitre 21 de Genèse. Alors, on avait parlé la semaine dernière que les promesses des hommes sont souvent irréalistes, fragiles, inconstantes, irréfléchies et souvent sont accompagnées du non-accomplissement. Celles de Dieu, au contraire, on avait parlé des promesses de Dieu, j'avais parlé de Clark's Promises of the Bible, c'est extraordinaire. Si un jour on met ça en application, j'en aurai chacun une copie, qu'on voit que Dieu a promis plein de choses par rapport à toutes sortes de secteurs de nos vies, qu'on a besoin de savoir. On a besoin des fois de les lire, de les relire, de les méditer et de les réclamer de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, des fois on peut aller le voir face à un problème particulier qu'on a, puis on peut réclamer la promesse. Dieu aime ça qu'on fasse ça. Alors on avait vu ces choses-là. Alors les promesses de Dieu sont tout le contraire de ceux des hommes. Elles sont immuables, fidèles, comme les Écritures les décrivent elles-mêmes, grandes et précieuses, et aussi vraies et sûres. Alors quand on voit, on fait la différence entre les promesses des hommes et celles de Dieu, on voit qu'il y a un gouffre infini entre les deux, une différence infinie. Le premier point qu'on avait regardé, c'est que Yahweh accomplit sa promesse en Isaac, parce qu'elle était rendue à 90, lui était rendu à 100. Dieu lui avait apparu, lui avait dit... L'an prochain, à cette époque, je vais revenir, tu vas avoir un enfant. Et Dieu l'avait accompli, sa promesse de lui donner un enfant qui serait de sa chair et non pas un tour de passe-passe comme il avait essayé de faire avec Agar. Alors, on avait vu aussi que Yahweh l'avait accompli avec fidélité et que Abraham aussi, dans le fond, avait obéi à Dieu, parce qu'il lui avait dit qu'il fallait que l'enfant soit circoncis, il fallait que ça soit un moment précis, le huitième jour. On voit qu'Abraham, l'obéissance pour lui, ça voulait dire quelque chose. Alors, comme Dieu lui avait commandé, comme ça dit. Et ça nous rappelle qu'il avait 100 ans. On voit le côté puissance de Dieu. Une femme de 90 ans, un homme de 100 ans, et il permet qu'il y ait un fils, le fils de la promesse, par Isaac et ses descendants, viendrait éventuellement le Messie. On avait vu aussi que le Seigneur l'accomplit de façon magistrale. On avait parlé qu'une démonstration magistrale est quelque chose, c'est quelque chose qui est propre à un maître. Un maître, quelqu'un qui maîtrise quelque chose, qui enseigne, ça paraît, parce que, autrement dit, on la regarde et on dit, lui, c'est ce qui s'en va dans son domaine. Alors, Dieu le fait de façon magistrale, en permettant qu'une femme de 90 ans allait des fils. Et là, ils ont tellement été contents qu'ils ont voulu faire un festin. Un festin, c'est une grosse affaire. Et le festin, là, le fils Agar, le fils d'Agar, il a ri de elle et elle n'a pas aimé ça. Et elle a dit à son mari, à Abraham, écoute, là, il faut qu'elle s'en aille, parce que ça ira pas bien. Elle dit, elle n'héritera pas. C'est mon fils qui va hériter de la promesse et non pas lui. Intéressant. La deuxième chose, c'est que Dieu a fait des promesses aussi à Ismaël. Ismaël, c'était le fils d'Agar. Alors Ismaël, Dieu lui avait dit qu'il, non seulement il ne permettrait pas qu'il meure, parce que quand il était dans le désert, il y avait l'outre d'eau, il y avait le puits. Dieu a permis qu'elle découvre ce qu'il fallait pour qu'elle puisse survivre. Mais Dieu avait dit que ce peuple-là, ils seraient nombreux. Aujourd'hui, on sait que c'est les Arabes et qu'il y aurait, ces gens-là, un esprit belliqueux, dans le sens qu'ils vont être portés à être en chicane assez régulièrement. Alors, Dieu vient montrer ici que certaines vérités par rapport à la chair, parce qu'on peut prendre Ismaël comme étant un type de la chair, un symbole de la chair quand il s'agit des choses spirituelles. Donc, on a vu que dans le verset 9, que la chair est moqueuse. Qu'est-ce qu'il a fait, le jeune? Il a ri. Alors, la chair est moqueuse, la chair est provocante aussi, parce qu'en faisant ça, elle provoque Sarah se fâche, et ça l'amène, la chair amène souvent l'irritation. Abraham était très irrité de voir que sa femme, elle voulait que, autrement dit, débarrasse-toi de cette femme-là, parce que ça ira pas bien. Alors, Dieu vient nous montrer que, dans le fond, il va exécuter la vérité de sa prophétie en permettant que cet homme-là devienne le père d'une nation nombreuse. Et on le sait aujourd'hui, quand on regarde autour d'Israël, les pays qu'il y a là, des Arabes, il y en a beaucoup, énormément. Alors, il lui avait dit, « Prends le jeune garçon, relève-toi, le Seigneur l'encourage et lui montre qu'il accomplit sa promesse. » Et on a vu aussi que ça va mal terminer parce que ce jeune homme-là, sa mère, après tout ce qu'elle avait connu de Dieu, les bénédictions qu'elle avait été témoin, elle prend, elle fait marier avec une Égyptienne qui fait en sorte que cette nation-là va continuer dans le côté païen des choses parce que marier une Égyptienne, c'était pas une bonne décision de sa part. On était rendu là. On était rendu au troisième point. Yahweh accomplit sa promesse en donnant un grand nom à Abraham. Si on se souvient, quand on recule un peu dans Genèse 12, au verset 2, le Seigneur avait promis à Abraham qu'il ferait de lui, que son nom deviendrait grand. Il est très grand parce qu'aujourd'hui, on est rendu en 2018 et on en parle encore. Puis je ne sais pas combien de temps le Seigneur va tarder avant de revenir, mais c'est sûr que Abraham, le nom d'Abraham, il est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament aussi. Son nom est devenu très grand, on le considère comme le père des croyants. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre en étudiant la personne d'Abraham, son caractère, sa marche chrétienne, sa marche sur la terre, on a beaucoup de choses à apprendre de lui. Parce qu'il y a beaucoup de livres américains qui ont été faits là-dessus. Ils ont pris des personnages, par exemple Daniel, ils ont pris, Joseph, et ils ont fait des études qui ont sorti tous les versets des Écritures qui parlent d'un personnage pour nous apprendre des choses. Parce que ces personnages-là, quand on les étudie un petit peu plus en profondeur, ils ont énormément de choses à nous apprendre. Plus particulièrement Abraham, parce qu'on le considère comme étant le père des croyants. Alors, Dieu lui avait fait une promesse dans Genèse 12. Là, on est rendu à 21, mais on va reculer un petit peu pour se souvenir qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Genèse 12, verset 2. « Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Alors, on voit dans les derniers versets, à partir du verset 22, aller jusqu'au verset 34, que quand tu as un grand nom, déjà à l'époque, le roi Abimélec et son chef d'armée, Picol, voyaient que Abraham était béni de Dieu. Et c'est ça qui faisait en sorte qu'il voulait l'approcher pour attirer la bénédiction sur lui. Parce qu'on le voit dans le verset 22 à 24, « Et il arriva qu'en ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Alors, le croyant, s'il marche en fidélité avec le Seigneur va lui donner souvent beaucoup de succès. Les autres le voient. Avez-vous déjà remarqué ça des fois qu'on va dire à quelqu'un qui est dans le problème, qui n'est pas sauvé, disons, on va dire « Tu devrais prier pour telle affaire. » Là, ils vont dire « Non, j'aimerais mieux que ce soit toi qui prie pour moi. » On dirait qu'ils sentent leur indignité. Ils sentent que comme enfants de Dieu, nous, notre puissance va être plus grande que la leur. Et là, il lui dit dans le verset 23, « Maintenant donc, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni ma race. Tu agiras envers moi et envers le pays où tu as séjourné avec la même bonté avec laquelle j'ai agi envers toi. » Et Abraham répondit, « Je le jure. » Alors, on voit que, dans le fond, les païens reconnaissent que l'enfant de Dieu est béni et qu'ils cherchent à obtenir une partie de la bénédiction que Dieu leur donne. Et on voit qu'un grand nom, donc, attire. C'est, il a attiré Abimelech, il a attiré son chef de l'armée. Mais aussi, le nom, quand on a un grand nom, ça en amène des obligations. Donc, un grand nom oblige. Voyez-vous, avant qu'Abraham fasse qu'il jure ce que Abimelech lui demande, il lui rappelle un problème qu'ils ont entre eux. Verset 25, il dit, « Mais Abraham se plaignit à Abimelech à cause d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés. » S'étaient emparés d'un puits que c'était Abraham qui avait creusé. Ils se sont en emparés de force. Et là, autrement dit, Abraham, à cause de son grand nom, son nom oblige. Autrement dit, oui, je suis prêt à jurer, mais avant, tu vas régler les problèmes qu'on a entre nous deux. Alors, l'offre qu'Abimelech lui faisait, c'était une offre honnête, mais cependant, c'est-à-dire Abraham agit prudemment. Il est prêt à accomplir la demande, mais il dit, autrement dit, c'est conditionnel, il faut qu'on règle nos problèmes avant. Verset 26, là, Abimelech, il se défend. Il dit, et Abimelech dit, « Je ne sais pas qui a fait cela. Toi-même, tu n'en as point averti, et je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Autrement dit, tu es en train de trouver une excuse. Mais parfois, quand quelqu'un trouve une excuse et que l'excuse est valable, ça nous donne une leçon à nous là-dedans. Moi, j'en vois trois de ce verset-là, leçon qu'il nous donne à nous. Il ne faut pas tenir un chef responsable pour les actes ignorés de ses subalternes. Il y avait quelqu'un dans sa gang, autrement dit, qui a fait quelque chose, lui dit qu'il n'était pas au courant. Il faut croire que non, il n'était pas au courant. Alors, ça nous apprend, nous autres, des fois, que ne faut pas tenir un chef responsable pour des actes que ses subalternes ont faits et dont lui n'était pas au courant. Deuxième leçon, il est mal de juger sans preuve évidente et suffisante. Avez-vous déjà remarqué comment on est prêt à accuser des fois? Oh, ben, il a dû passer ça, ben non, il a dû faire ça, ben non, il a dû, puis on sait rien de tout ça, puis on n'a pas de preuve de ça. C'est juste que notre petite machine à cinéma, là, notre petit Hollywood est parti, là, puis ça tourne. Et là, on prête aux gens des intentions. Souvent, ils n'ont jamais pensé ça. Souvent, ils n'ont jamais dit ça. Souvent, ils n'ont jamais fait ça. Mais nous, là, on se fait un film, là, puis on dirait que les personnages, il faut qu'ils fitent dans notre petit film. Et la troisième chose de leçon là-dedans, l'on se doit de surveiller son langage. Alors, je pense que la manière dont Abraham présente le problème qu'ils ont entre eux, d'une façon sage, il ne commence pas à dire, « Ben là, tout est un croche », puis il lui dit, « On en a un problème, j'avais un puits, tes serviteurs sont venus, l'ont pris de force, c'est à moi ce puits-là, là. C'est moi qui l'ai creusé. » Alors, il lui rappelait ça. Un grand nom aussi impose, versets 27 à 32. Impose dans le sens que on se doit d'agir en fonction de nos croyances, en fonction des engagements qui ont été pris. Ça dit dans le verset 27, « Alors Abraham prit des brebis et des bœufs et les donna à Abimelech et ils firent alliance ensemble. » C'était la façon de dire, si on règle nos problèmes, oui, je vais faire alliance avec toi et je ne te ferai pas de troubles dans le pays, puis toi, tu ne m'en feras pas tout non plus. C'est comme une alliance humaine, autrement dit, on s'engage les deux réciproquement pour ne pas se faire de problème. Alors, Abraham scelle l'alliance de façon solennelle en lui donnant des brebis et des bœufs. Alors, dans le verset 28 à 30, ça dit, Abraham mit à part cette jeune brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à part? » Et il répondit, « C'est que tu accepteras ces sept jeunes brebis de ma main afin que ce me soit un témoignage que j'ai creusé ce puits. » Il lui donne des brebis pour démontrer que oui, c'est moi qui l'ai creusé ce puits-là. Et c'est injuste que tes serviteurs soient venus qui me l'aient enlevé de force. Alors Abraham n'hésite pas à donner sept brebis comme témoignage du fait qu'il avait creusé ce puits. Versets 31 et 32. C'est pourquoi on appela ce lieu-là Beersheba, qui veut dire puits du serment. Les deux se sont engagés l'un envers l'autre en faisant serment. Moi, je ne te ferai pas de trouble, puis toi, tu ne me feras pas de trouble. On le jure tous les deux. car ils jurèrent tous deux. Verset 32, « Ils traitèrent donc alliance à Beersheba. Puis Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. » Alors Abraham et Abimélec officialisent et authentifient leur alliance de paix en se jurant l'un à l'autre. Vous devez remarquer que dans le temps de nos grands-pères, là, il y avait des contrats qui se faisaient verbalement, une poignée de main. Terrain qu'il y a là, je suis acheteur, moi. OK, tu le vends. C'était réglé. Tu n'avais pas besoin d'aller chez le notaire. Les gens avaient une parole, puis ils tenaient leur parole. Malheureusement, ces jours-là sont passés un petit peu. Là. Mais il reste que nous, comme chrétiens, on se devrait d'avoir une parole. Et quand on dit quelque chose, on se devrait de le faire, parce qu'on est un témoignage qu'on a une crainte de Dieu et qu'on fait attention à ce qu'on dit. Puis quand on dit quelque chose, il faut le faire. Alors, ils officialisent toutes leurs deux là, leurs affaires et les deux semblent très satisfaits de l'entente qu'ils ont prise. Et dans le verset 33 et 34, il y a encore des choses qui sont dites, qui sont intéressantes. Abraham planta un tamarin à Beersheba et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Et Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. On le lit rapidement comme ça, mais il y a beaucoup de matériel là-dedans. Il y a du jus dans ces versets-là. Souvent, ce qu'on fait quand on lit trop rapidement, on manque un petit peu le bateau dans le sens qu'il y a des choses importantes qui nous sont enseignées et qu'on on lit trop en surface. Des fois, il faut s'arrêter et interroger le texte un peu parce que le texte nous parle. Alors, ces versets nous rappellent que nous avons des devoirs et que nous avons aussi des privilèges. Aujourd'hui, les gens entendent, ils vont uniquement parler de leurs privilèges. Quand les gens parlent de politique, « Oh, mais j'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça, on a plein de droits. » Et on les réclame et on ne gêne pas. Mais quand on parle des devoirs, tu as des devoirs envers l'État. L'État, souvent on va dire, quand quelqu'un, paye pas son impôt ou paye pas les taxes parce que ça se fait en dessous de la table, les gens vont se défendre, on dit « Oh, ben là, c'est pas volé, j'ai des voleurs. Voler des voleurs, c'est pas volé. » Voler, c'est voler. Comment tu diras, voler des voleurs, c'est pas voler, c'est pas vrai. Voler, c'est voler. Puis quand on ne paye pas nos taxes, on prive le gouvernement de revenus et on est des fraudeurs. Alors, ça aussi, faut aller là-dedans parce que aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont prêts à nous faire des petites jobines, comme on dit, en dessous de la table. Qu'on fait ça en dessous de la table. Là, tu viens de te donner une facture de 200$, tu vas venir de sauver 16% ou aux alentours. Ben, si c'est 2000$, tu viens de chercher un bon petit pote, là. Mais tu as volé cet argent-là. Tu l'as volé au gouvernement. Et on est tous sujets à ça parce que on se le fait faire régulièrement. Des fois, tu vas dans un garage, le gars va dire OK, arrange tout, tu payes la facture, là, puis on dit, on oublie les taxes. Il faut que tu aies assez de guts pour dire, monsieur, moi, je veux une facture avec mes taxes parce que je dois payer mes taxes. Et je les paye pour une simple bonne raison. C'est que Dieu nous dit dans les Écritures qu'on se doit de payer nos taxes au gouvernement. C'est dit dans les Écritures, ça. Mais des fois, on a peur de témoigner et on laisse passer l'affaire. Alors, il faut vraiment faire attention à nous. Tout le temps, comme chrétien, il faut se surveiller parce que des gens autour de vous qui vont vous proposer des petits marchés intéressants, à la fois pour lui et à la fois pour nous, mais pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, quand tu fais ça, tu es un voleur. Et Dieu ne traite pas les péchés à la légère, on le sait. Alors, quand ils ont pris leurs ententes entre eux, il y a eu un moment où Abraham a apprécié qu'est-ce qui s'est produit entre eux. Parce que si Picol et Abimélec auraient décidé de se retourner contre lui, parce qu'en termes de nombre, là, il aurait pu les écraser, il aurait pu... Et là, il reconnaît devant Dieu que l'entente qu'ils viennent de prise, ça l'apporte pour lui des avantages. Dans le sens que les devoirs de commémoration, il lui dit, plantant un tamarin, et il invoqua là le don de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est qu'il faisait, là? De l'adoration. Il se rend compte que Dieu permet ça, et pour lui, il se rend compte qu'il doit quelque chose au Seigneur. Il lui dit, il invoqua, bien sûr, dans le sens d'invoquer le nom de l'Éternel, c'est le sens de... Alors, comme chrétien, on a des devoirs de commémoration. Dieu a tellement fait de choses pour nous. Si on faisait une liste, là, ce serait tellement longue la liste, là, qu'on pourrait passer le reste de notre vie ici, puis je ne suis pas sûr qu'on aurait fait toute la liste encore. On est tellement rapide à oublier de tout ce que Dieu fait pour nous. Dieu fait tellement de choses pour nous. Alors, le mémorial, se rappeler que c'est Dieu qui le fait pour toi, et l'adoration, ça fait partie de... Si le Père des croyants sentait le besoin de remercier, nous aussi, on devrait remercier. Le fait de planter un tamarin, ça, des fois, premièrement, j'ai goût à un tamarin. C'est une plante qui a une durée de vie longue. Si tu plantes une vie, par exemple, je ne sais pas, mais un chêne, sa vie, c'est des gros arbres qui ont une durée de vie très, très longue. Si après avoir fait, comme symbole, tu plantes un chêne, après avoir pris entente entre deux personnes, le symbole, c'est que notre entente, elle va durer longtemps. Le fait de planter un tamarin témoigne de la volonté d'occupation pacifique, mais durable. Puis ça que ça dit aussi dans le verset 34, on voit que c'est durable parce que ça dit « Et Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. » Donc, l'entente, Dieu a permis que l'entente soit durable, que lui puisse la voir et en profiter le restant de ses jours. Donc, Abraham ne manque pas d'invoquer le nom de l'Éternel, de prier, de démontrer au Seigneur sa gratitude et d'adorer. Alors, le verset 33, il y a une autre affaire intéressante dans le verset 33, mais des fois, il faut aller voir un petit peu les commentaires où, si on est capable de lire dans l'original, c'est rare, ceux d'entre nous sont capables de lire dans l'original. Mais pourtant, les noms que Dieu utilise dans les Écritures, souvent, ça nous passe six pieds par-dessus la tête. On les manque, et je pense qu'on manque notre coup quand on passe par-dessus. Parce qu'il y a des noms de Dieu qui sont révélateurs de certaines caractéristiques de sa personne. Et ce nom-là, dans le verset 33, quand ça dit il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Si vous allez dans une Bible hébreu, c'est El Olam. Le nom qu'il utilise là. J'ai un livre à maison où on a à peu près tous les dons de Dieu. Je pense qu'il y en a au-dessus de 100. Mais chaque fois que les Écritures, dans l'hébreu, changent le nom que la Bible utilise pour parler d'une facette de Dieu, c'est hyper riche. Ça, des fois, dans la traduction, on perd un peu cette richesse-là, mais c'est dommage. Alors, il nous parle du nom de Dieu qui parle de son éternité et de la solidité absolue de son alliance avec Abraham. Ça dit, il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité, c'est El Olam. El Olam, ça veut dire que c'est un Dieu éternel et que c'est un Dieu que tu peux te fier à 100% dans sa fidélité sur l'alliance qu'il a prise avec son serviteur. Alors, c'est un nom que, si on se prenait à peine d'aller fouiller tout ce qui a été écrit sur El Olam, de regarder les autres passages dans les Écritures où le même nom est utilisé, on apprend des choses sur Dieu que une lecture superficielle, on passe par-dessus et on ne comprend pas nécessairement. Donc, les devoirs, on a des devoirs envers Dieu quand le Seigneur fait des choses pour nous, mais on a aussi des privilèges. Jouir de la paix de Dieu. C'est-tu intéressant, comme chrétien? Moi, j'ai pensé à mort récemment quand j'ai eu mes affaires. Là. Je saignais sans arrêt. Là. Veux, veux pas, ça te monte à l'esprit. Et bien là, je me suis dit, Seigneur, c'est-tu là que tu viens me chercher? Là? Non, mais tu es mort à 71 ans. Ça n'aurait pas arrivé. Puis là, tu penses à la mort. C'est une bénédiction de penser à la mort. Parce que ça te fait prendre conscience que tu as la paix de l'âme, toi. Il y en a plusieurs qui ne sont pas prêtes. La mort, dans les Écritures, on l'appelle la terreur de l'homme. quand quelqu'un n'est pas sauvé, la mort le terrorise, même s'il ne l'avoue pas. Il y a plusieurs qui vont dire « Oh, ben, je n'ai pas peur de ça. » Moi, ça que tu dis, là, mais quand tu vas arriver au moment de mourir, peut-être tu vas changer d'idée, tu vas peut-être être terrorisé. Surtout si on t'a annoncé l'Évangile, puis tu n'es pas en paix avec le Seigneur, tu t'es pas réconcilié avec le Seigneur. C'est un lieu terrible, l'enfer. Les gens, aujourd'hui, font les gorges chaudes de l'enfer. Mais quand quelqu'un fait une joke, puis il dit « Ah, c'est l'enfer, on devrait le reprendre. » On devrait dire « Non, tu sais pas ce que c'est l'enfer, mon ami. Veux-tu que je te le dise? Veux-tu que je te le montre dans les Écritures? C'est où l'enfer? Puis c'est quoi ça fait? » Un lieu de tourment, de graissement dedans, où tu vas passer dans les ténèbres, dans la souffrance éternelle. Tu ne sortiras jamais de là. Alors, on se devrait d'aimer les gens assez autour de nous pour leur parler des Écritures. Donc, ça nous donne des privilèges, la paix avec Dieu. Et ça nous donne même le privilège de la paix humaine. Parce que si on a la paix sur terre, là, Abraham était sur la terre, là, il était au pays des Philistins, ça aurait pu très bien arriver que les troubles arrivent à cause qu'ils étaient en minorité et eux étaient en majorité, ils auraient pu. Mais il y avait une crainte de Dieu que Dieu avait mis dans le cœur d'Abimélec et de Picol, parce qu'ils voyaient que Dieu bénissait. Puis ils se sont dit, si on s'allie avec eux autres, Dieu va nous bénir aussi. Quelles sont les applications? Moi, je vois trois applications qu'on peut faire à partir de l'ensemble du chapitre 21. Bien sûr, il y en a, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais celles que je vois, à première vue, assez rapidement. Je dirais, appliquons-nous à connaître et à étudier les promesses de Dieu. La semaine dernière, on l'a passé. Clark's Promises of the Bible, ça existe. Là. Tout classé par catégorie. Si on vous demandait de venir en avant et dire, qu'est-ce que tu connais des promesses de Dieu? Je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient gênés, moi le premier. Parce que c'est des choses que Dieu... Quand un être humain qu'on aime là, nous fait une promesse, on l'oublie-tu? Dieu en a fait des centaines, si ce n'est pas des milliers. Bien souvent, on ne serait même pas capable d'en nommer une. On dit comme les Anglais disent, « Shame on you ». Honte à nous. On se devrait les connaître, les méditer et les réclamer. Parce qu'elles sont, dans les Saintes Écritures, elles sont une source inépuisable de réconfort. Je vous ai raconté la semaine dernière la missionnaire en Chine là, qui, au moment où elle était sûre qu'elle pourrait être tuée, et son mari était pour être tué, ça a été pour elle une source de réconfort. Elle dit, je me sentais comme si Dieu lui-même me parlait. Mais c'est ça qui se produisait aussi. C'est Dieu, parce que des fois, tu lis rapidement, mais quand tu es dans une situation où tu peux perdre la mort, tu peux perdre la vie, ben Dieu te fait comprendre le verset d'une façon telle que tu es convaincu que c'est Dieu lui-même qui te parle. Et ça, c'est précieux. Donc, une source inépuisable de réconfort, une source inépuisable d'émerveillement. Quand tu vas recevoir l'accomplissement ou l'exaucement d'une prière que Dieu a fait dans ta vie, tu vas être émerveillé devant Dieu. Oh! Tu viens en... J'aime beaucoup le mot en anglais « awe ». A-W-E, ça veut dire... Tu es comme en extase devant Dieu. Tu es comme quelque chose de particulier. Et de gratitude aussi. Si Dieu te fait une promesse, Dieu l'accomplit, bien sûr, tu es rempli de gratitude. Alors, les promesses de Dieu, ils nous enseignent toute une facette ou une autre du caractère infini de chacun des glorieux attributs de notre grand Dieu. Ça, je vous dis que dans à peu près deux mois et demi, on commençait une série sur les grands attributs de Dieu. Puis quand on s'imagine, là, il y a une chose que quand on s'imagine, c'est sûr que je ne pense pas de vous apprendre vraiment tellement de choses nouvelles. Peut-être, oui, sûrement. Sur l'ensemble, d'aller apprendre des choses nouvelles, ça ne se peut pas, tu n'apprennes rien. Mais Dieu est tellement grand. Moi, c'est une chose de plus en plus, plus je vieillis, plus je comprends ça. Dieu est d'une grandeur infinie dans chacun de ses attributs. Il y en a au moins 25. Et chaque attribut devrait nous emmener un changement dans notre comportement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si on y a une chose qu'on parlait à l'intérieur de Témoins de Jéhovah, si tu connais quelqu'un qui connaît bien sa Bible, vraiment bien, puis qui connaît bien son Dieu, il n'a pas peur des Témoins de Jéhovah. Parce qu'il est capable de se promener dans sa Bible. On va aller là. OK, tu dis ça, mais on va aller là. On va aller là. Mais le problème, c'est qu'on se sent comme des enfants. On a peur de parler avec eux autres. Quelle est la raison? Parce qu'on ne connaît pas assez notre Bible. C'est ça la vraie raison. La deuxième application, habituons-nous à réclamer les promesses du Seigneur. Dieu aime ceux qui lui font confiance. Le livre que je vous ai parlé est en anglais, mais je veux le traduire, je veux le faire cette année, là, pour qu'on en ait chacun une copie, parce que ça correspond à tous nos états d'âme, qu'on soit dans la peur, dans la crainte, dans la misère, dans la maladie. Tout est là, classé par catégorie. Si à un moment donné, tu traverses un moment de découragement, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Prends ton livre, tu le rouvres, découragement. Et là, tu lis ce que Dieu dit, en prière, en demandant au Seigneur que son esprit nous éclaire. Et là, ça l'amène à un soulagement. C'est pour ça que les Écritures nous ont été données. Troisièmement, profitons pleinement des précieuses promesses divines et jouissons-en quotidiennement. Mais par-dessus tout, croyons-les fermement, car en ce faisant, nous honorons notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si on lit une promesse dans les Écritures, puis on le croit, on honore Dieu. T'as promis ça, mais Dieu lui fait jamais de fausses promesses. Ça arrive ce qu'il dit. Alors, c'est lui qui nous a ouvert ce précieux trésor. Les Écritures sont un trésor inestimable. Si on savait jusqu'à quel point les Écritures sont un précieux trésor, je peux vous dire une chose. On les lirait beaucoup plus qu'on les lit. Parce qu'il y a des statistiques, on ne peut pas mentir aux statistiques. Les statistiques, ils nous regardent aller, puis ils nous observent, puis ils font des... Ils disent que quand quelqu'un lit sa Bible 15 minutes par jour en Amérique du Nord, c'est déjà, à tous les jours, c'est déjà exceptionnel. 15 minutes? Moi, à mon humble avis, là, ça devrait être au moins une heure par jour. Pas nécessairement tout en même temps. Là. Parce que si on lisait nos Écritures plus, davantage, en prière, on changerait, notre caractère changerait, notre marche chrétienne changerait. Il faut demander à Dieu, donne-moi d'aimer les Écritures. Souvent, on est paresseux. Premier, là. On est paresseux, on est négligent. Dieu nous a donné un trésor. C'est comme si quelqu'un, t'es pauvre raide, là. Puis quelqu'un t'aurait donné 1 million, puis il aurait dit, ton million, là, il est dans telle place, sers-toi quand tu en auras besoin. On ne fait pas. Des fois, là, quand on prend connaissance vraiment de notre misère, de notre désobéissance, de notre inconscience, on a besoin des fois de se faire rappeler devant les faits comme ça pour que Dieu nous donne... de vouloir changer, de vouloir aller plus loin. Une leçon que j'ai apprise aussi dans la petite chose que Raymond Perron m'a partagée ce matin. N'essayez pas de changer quoi que ce soit par une résolution que vous ne tiendrez pas. Si on se rend compte qu'on n'est pas correct face à telle affaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Demandez au Seigneur de vous le donner, lui, et de le changer lui-même. Que la fidélité de Dieu à ses promesses soit béni et exalté à tout jamais. Amen. Amen.